Merci Anastasia. Donc, je vais donc tout de suite la parole à Nadine Cordova qui va nous parler sur le titre point.
Quoi ? Point. Non pas quoi, point.
Point théorialité. Alors la question qui m'est venue concernant ce qui nous occupe aujourd'hui est simple. Peut-on affirmer qu'il y a des formes nouvelles du symptôme ? Cette proposition s'inscrivant dans le thème de l'année l'actualité de l'hébrose, j'ai été surprise par la discussion de la première soirée du séminaire école. Elle a porté essentiellement sur les psychoses et l'autisme. Je me suis demandé pourquoi. Cette soirée a influencé ce travail. Il est vrai que Lacan profile et redéfinit dans les années 70 le vocabulaire de la psychanalyse au regard de ses élaborations. Celles-ci tendent un peu plus à approcher le réel. Et il y a de quoi se perdre. D'ailleurs, ces dernières avancées, notamment mises en forme dans les neuroméens, auraient-elles parfois pour effet de nous étourdir et de nous emporter vers des inconscients articulés, je cite Lacan dans Séminaire 3, à fleur de terre. Pour faire suite à ce qui précède, deux affirmations ont retenu mon attention dans l'étourdi. Lacan souligne, je le cite, que la topologie n'est pas faite pour nous guider dans la structure, car cette structure, elle l'est. Un peu plus loin, il affirme néanmoins que la topologie nous enseigne. Et je comprends que c'est le sujet analysant qui nous guide. Les analystes ont à suivre la structure, c'est-à-dire à suivre comment un sujet se saisit des effets du langage. La topologie, quant à elle, serait faite pour mieux appréhender ce qui se joue dans la cure. Car la topologie permet de penser la structure en mouvement, de la voir dans l'espace, de la manipuler comme consistance, coincée que nous sommes par le signifiant, et pas forcément bien guidée par ce que nous ressentons ou pensons. Les nœuds qui sont du registre spatial pourraient pourtant, eux aussi, nous conduire un peu trop volontiers vers l'imaginaire. Encore faudra-t-il le définir. C'est dans cette dialectique que se trouve pris l'analyste deux ans en un, celui qui suit la structure en acte et celui qui essaie de l'élaborer avec d'autres, ce que j'essaye de faire maintenant. Et la névrose dans tout ça. À la Grande Motte, en 73, Lacan parlera en effet de vieille clinique, quand il évoquera les types cliniques hystériques ou obsessionnels. En revanche, il maintiendra que ce n'est pas sans raison qu'il en a parlé. Ce qui veut dire qu'il soutient la pertinence du vocable « type clinique », mais n'emploie pas à ce moment-là celui de « structure » pour définir le diagnostic. Il aura défini la structure deux ans auparavant, toujours dans l'étourdi, comme, je le cite, rétroaction de l'ordre de la chaîne dont consiste le langage. Les types cliniques sont par conséquent des effets, et ces effets sont différents pour chaque sujet, et il n'y a pas de photocopie possible entre les sujets d'un même type. C'est autour de ces quelques points que je vais tourner pour traiter la question qui introduit mon propos. La difficulté avec la névrose tient sa structure. Les symptômes avancent masqués et peuvent brouiller les pistes par leur bizarrerie et leur variété. Folie ou pas folie. Le terme de névrose trouve d'ailleurs son origine dans le milieu médical où sa place est instable. Et comme vous le savez, c'est en 1777 que William Cullen propose une nouvelle classification des maladies dans laquelle apparaissent les névroses. Celles-ci sont définies comme des maladies non inflammatoires et ou des états chroniques des nerfs. William Cullen les localise dans le système nerveux et pense qu'elles seraient dues à une altération quelque part dans cet espace. Cependant, le médecin ne sait pas très bien la nature de ces maladies et donc la cause des symptômes. Grâce à Philippe Pinel, névrose fait son entrée dans la psychopathologie française, puis Freud se réapproprie le terme pour désigner le fonctionnement psychique de certains sujets. Mais ce qui est décisif, c'est que les névroses, accompagnées de leurs symptômes, ouvrent le champ de la psychanalyse avec le scandale qu'elles charrient. Il existe une vie sexuelle infantile qui peut avoir des effets morbides, des conséquences morbides. Les maladies des nerfs, nerfs, signifiant maître du temps de Freud, le neurologue, passent au maladir, le refoulé traumatique. Alors si la névrose disparaît de la nosographie psychiatrique internationale, elle subsiste malgré tout dans le discours courant avec l'idée que quelque chose boite. Et c'est toujours dans le cerveau que les scientifiques cherchent à comprendre ce qui cloche. Ainsi, les corps parlants amènent avec les manifestations et les signifiants de leurs symptômes des éclats du monde, notamment de l'état de la science. On pourrait dire que les sujets s'en emparent, voire s'emparent. Alors à ce titre, dans les écoles où j'exerce, je constate que la prévention se radicalise, comme l'ensemble de la société. Surtout quand le symptôme est bruyant ou spectaculaire. Les professionnels guettent, et ce dès la maternelle, la jouissance au plus tôt de ces signes, afin de l'interpeller. On pourrait oublier d'apaiser ce qui est encore fougueux, et tuer parfois dans l'œuf ce qui est en train de se jouer ou s'est déjà joué. Le paradoxe, c'est que vient répondre à cette traque un circuler et rien à voir. Rien à voir de l'enfance. Je cherchais depuis quelque temps comment dire cette chose dont je suis témoin. Et c'est le refoulement, voire la forclusion de l'enfance qui m'est venue. Plus que jamais, les jeunes enfants doivent arriver conformes à l'école, déjà tout fait au lien social. Face à des situations de crise, de rage ou d'hystérie, certains crient à l'urgence. Et ceux qui ne le feraient pas, qui ne le feraient pas assez vite, pourraient être appelés à l'ordre pour ne pas avoir signalé certains comportements. Ce qui a souvent pour conséquence d'oublier le bon sens, et de ne plus tenir compte des effets du temps à cause de l'obsession phénoménologique actuelle. La question temporelle est, je crois, ce qui est le plus délicat à traiter en ce moment. On a à l'œil tous les signes de débordement. Ce qui est un des points d'appui de ces réactions excessives, je dirais parfois abusives, c'est une certaine lecture des neurosciences qui ont fait leur entrée dans l'éducation nationale. Après les 10, le spectre autistique, les hyperactifs, les hauts potentiels, voici une autre ombre qui plane. Le corps enseignant est appelé à être attentif à une nouvelle forme de diagnostic scolaire qui croise l'éducatif et le cerveau. Les enfants hautement perturbateurs. Tel est le nom désormais de ce qui pourrait agresser le lieu du savoir. Les attentats et les violences en tout genre qui traversent nos sociétés en sont certainement la raison principale. Il est vrai que l'actualité nous inonde de versions hard de la guerre des boutons. On cherche donc à localiser les éventuels boutons de guerre. Il est nécessaire de traquer le futur bras armé qui pourrait passer à l'acte et mettre à mal notre monde. Quoi qu'il en soit, le bruit de la jouissance du symptôme provoque à tous les coups ses effets. Car si le symptôme fricote avec le social, il fricote toujours avec la jouissance, plus ou moins folle, puisqu'elle ne fait pas bien, même pas avec le sujet. Par conséquent, rien de nouveau. Les manifestations symptomatiques sont en pleine forme, quels que soient les moments d'histoire. Elles suivent et répondent aux mots et aux discours de chaque époque, de chaque culture, jusqu'à revenir dans certains cas en messages inversés, sous des formes qui dérangent, interrogent, désorientent. On cherche alors l'impuissant à nommer, à répondre à ces formes qui échappent et qui semblent sans loi. Les mots sont insuffisants pour décrire la structure. Freud avait justement produit des esquisses d'une psychologie, des schémas, pour essayer de mettre en forme le fonctionnement de l'appareil psychique. Il tentera même de localiser les deux topiques et le refoulé dans un dessin en forme de sac que l'on trouve dans la décomposition de la vie psychique. Il écrit à ce propos. Il est difficile de dire aujourd'hui dans quelle mesure ce dessin est exact. Et il ajoute, en un point, il ne l'est assurément pas. Il pointe ici que l'espace du ça dans son dessin aurait dû être incomparablement plus grand. Freud saisit, me semble-t-il, que de l'irreprésentable est en jeu. Lacan poursuit la tâche. Il introduit dans les années 60 la figure du tort pour situer la névrose. Toujours dans l'étourdi, il confirme que le tort, c'est la structure névrotique. Ce solide serait à l'image du névrosé qui s'empêtre dans une demande infinie en s'enfermant à double tour dans ce qui ne peut s'étancher. Ça tourne et ça tourne. Il bouche de ce fait la cause de son désir. Le point final de l'analyse, c'est que puisse se produire une coupure qui arrête le mouvement avide du tort névrotique. Pour dire autrement l'opération d'une cure, je retiens ce que Lacan souligne dans le séminaire d'identification. Il avance que sur la surface torique, comme sur n'importe quelle surface, je le cite, on peut faire un petit rond et par ratatinement progressif, vous le réduisez à rien, à un point. Le névrosé, avec ce qu'il dit de ses symptômes, ne parle-t-il pas en fait encore et toujours de ce point où s'articule la vérité de sa structure ? Les symptômes névrotiques peuvent se déformer, se déguiser au gré des événements, mais seulement jusqu'à un certain point, car il réverbère pour chaque sujet une forme qui lui est propre. Et cette forme, je vous propose de l'accueillir dans la définition que Lacan donne de la psychanalyse dans le savoir du psychanalyste. Je le cite, « La psychanalyse, c'est le repérage de ce qui se comprend d'obscurcie, de ce qui s'obscurcit en compréhension, du fait d'un signifiant qui a marqué un point de corps. » Alors les symptômes qui parlent et qui font parler, c'est ce que Freud a su entendre. Et à sa suite, Lacan évoquera, dans « De nos antécédents », l'enveloppe formelle du symptôme. Si c'est une référence spatiale, le symptôme est défini à ce moment-là comme un nœud signifiant que l'analysant aura à déchiffrer pour découvrir la vérité de son symptôme. Sans remettre en question la fonction des déchiffrages, la définition du symptôme s'étoffe au fur et à mesure des élaborations de Lacan. Celui-ci va proposer un statut inattendu du signifiant. Le fait que certains symptômes résistent, ce que Freud avait déjà repéré, nous interroge sur ce qui se joue dans la formation des symptômes névrotiques. Car les symptômes se forment, il faut le rappeler, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là dans le livre. Ils sont l'effet d'une rencontre. Alors le névrosé qui veut savoir ce qu'il m'amène a comme point de mire ce quelque chose en lui qu'il sert obscurément et qu'il ne veut pas admettre. Dans les années 70, Lacan finira par définir le signifiant comme ce qui fait halte à la jouissance et ce qui la cause. Le symptôme est bien un nœud signifiant marqué maintenant par la jouissance et le corps. L'imaginaire, c'est-à-dire le corps en tant qu'il fait orifice, je cite Lacan là dans les récits, est reconnu désormais à part entière dans le nœud de la structure. Ainsi, le corps comme image, le corps comme jouissance et le corps comme parlant est un corps troué et perdu. Ainsi, à l'appel du « Allô, maman, bobo » du sujet traumatisé et aliéné qui demande des comptes à l'autre, c'est aussi la jouissance du symptôme qui se fait entendre. Et si le symptôme est un masque à démasquer, c'est parce qu'il masque et le désir, et ce que Lacan finira par saisir, le symptôme est un événement de corps. En écho avec la citation que j'ai relevée plus haut, relative à ce signifiant qui a marqué un point du corps, il me semble que nous pouvons prendre événement de corps comme les effets du point de contact qui a eu lieu entre le corps natif et le corps symbolique. Et c'est de cette opération mystérieuse qu'un symptôme obscur va prendre forme chez l'enfance qui fait son entrée dans le réel. Et que va se nouer, à un moment donné, un type clinique de corps parlant. Avec la topologie et particulièrement avec les nœuds, Lacan, à l'instar de Freud, inaugure une nouvelle forme topologique, plus rigoureuse, pour mieux dire et manipuler la complexité des effets de ce point de contact des corps. Dans RSI, Lacan avance encore et définit le symptôme comme du réel, ce qui en fait, dit-il, un symptôme organisé. Et Lacan de souligner que c'est ça qui est mauvais, au moins du point de vue de l'analyste. Mais pour le sujet, je dirais que le symptôme pense, tant bien que mal, le bobo de la structure. Et Lacan va assez dire apporter du neuf à ce propos. Il dit « Il n'y a que moi qui ai dit qu'il n'y avait pas de rapport sexuel et que ça faisait trou en un point de l'être du par-l'être. » Pour conclure, le symptôme, c'est une signature trouée qui marque de façon personnelle chacun d'entre nous. Il convoque à la fois le réel de la structure et des résidus qui excluent le sens. Ainsi, les symptômes interprétables de l'inconscient tentent-ils de traiter les séquelles de notre entrée dans le langage et de traiter de surcroît les rencontres contingentes de jouissance qui s'y sont greffées. Alors le névrosé, il y tient son symptôme bien solide, car ça le tient et l'angoisse tout autant, car c'est son être même, c'est ce qu'il a de plus réel. C'est en ce sens que je propose de parler de formes nouvelles du symptôme, singulière, toujours singulière. Et c'est du symptôme, écrit au singulier dans le titre, qui m'a décidé de prendre forme au pied de la lettre. C'est donc au sujet de répondre quand le symptôme masqué le réveille, quand se fait entendre le point de ce qui fait son nœud, son origine, avec ses quelques points noirs de l'histoire dans laquelle il a baigné. Voilà.